Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les informés de France Info. Jusqu'où Jordan Bardella peut-il aller dans les sondages? On va parler d'Europe ce soir avec la publication du premier sondage de France Info à 2 mois des élections européennes. Le RN est toujours très en forme, la majorité présidentielle prise en étau entre l'extrême droite et les socialistes, elle ne décolle pas. Comment comprendre ces estimations? Est-ce que tout est déjà joué? On va se poser ces questions ce soir sur France Info. Des blousons de cuir dans les rues du pays aujourd'hui et demain. Les motards sont encore en colère contre le contrôle technique que leur impose l'Europe. Encore elle. Ce contrôle sera obligatoire à partir de lundi. Le gouvernement a tout fait pour repousser cette échéance en vain. Touche pas à ma bécane, on ira voir avec nos informés comment cette réforme s'est appliquée ailleurs en Europe. Et puis il faut imposer une nouvelle taxe sur les livres d'occasion. Faut-il le faire pour protéger les éditeurs? Emmanuel Macron y réfléchit, mais est-ce vraiment judicieux à l'heure où les jeunes se détournent un peu plus de la lecture? On va également se poser cette question ce soir. Voilà pour le menu du soir. Côté invité, comme chaque samedi, le plateau des informés se transforme un petit peu en auberge espagnole avec nous Micaela Antoche, correspondante pour la télévision roumaine en France. Bonsoir.
Buonasera.
Vicente Battaglia, correspondant de la radio espagnole Cadena Ser et du journal catalan El Puntaui. Bonsoir.
Voilà, buenas noches.
Brigitte Hadès, avec nous également, grand reporter, chef du bureau britannique de la revue publique politique internationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Alberto Toscano, journaliste, écrivain et éditorialiste et italien.
Buonasera.
Buonasera. Bonsoir à vous quatre, on est ensemble pour une heure. C'est parti pour les informer. Et donc à 2 mois des élections européennes, nous vous proposons ce soir notre premier sondage réalisé avec notre partenaire Ipsos. Je vais vous demander votre avis, votre expertise dans un instant, les informer. Paul Barcelone du service politique de France Info est avec nous ce soir pour détailler ce sondage. Paul, premier renseignement, qu'est-ce qui frappe le plus d'ailleurs dans ce sondage ?
Alors d'abord, ce qui frappe, eh bien, c'est l'écart entre Jordan Bardella et les autres. 32% pour la tête de liste du Rassemblement National. Ça fait 16 points d'écart avec sa première poursuivante, Valérie Ayé. Tout cela, c'est une tendance qui se confirme désormais semaine après semaine, dans un moment aussi où le RN annonce des soutiens. Malika Sorel, l'essayiste venue de la droite, l'ancien policier médiatique Mathieu Vallet. Aujourd'hui, il y avait ce meeting à Royan pour parler, vous savez, aux villes moyennes, c'est le niveau 2 de la stratégie. Et à la lecture de ce sondage, on se rend bien compte que le RN fait le plein, si j'ose dire, sur ses bases. Je regardais tout à l'heure, c'est 44% chez les ouvriers, 37% chez les retraités CSP-, c'est les moins aisés. Et on en vient, du coup, à se demander et à se dire que la seule question qui vaille, c'est de savoir si Jordan Bardella, le 9 juin, pour ses élections européennes, fera plus ou moins de 30%, et finalement que la lecture des résultats sera interprétée à partir de ce chiffre.
Et Paul, on voit également que la liste socialiste Place Publique de Raphaël Glucksmann commence sérieusement à menacer les macronistes.
Alors c'est l'autre enseignement, effectivement, le resserrement entre la deuxième position de Valérie Ayé et le troisième homme, Raphaël Glucksmann. Le score de Valérie Ayé, c'est 16%, qui est assez bas par rapport à l'étiage d'Emmanuel Macron. L'entourage du chef de l'État parle régulièrement de 20, 21, voire 22% pour les voix des macronistes, avec donc le souffle sur la nuque des macronistes de Raphaël Glucksmann, et même une certaine fuite de ceux qui ont voté Macron en 2022 à la présidentielle. 14% d'entre eux se disent dans ce sondage sûrs et certains d'aller voter pour Raphaël Glucksmann le 9 juin. Là aussi, ça devient une tendance plus qu'une surprise avec donc Raphaël Glucksmann, troisième homme de cette campagne qui ne souffre même pas de la division de la gauche. Les autres listes, Manon Aubry pour les Insoumis et Marie Toussaint pour les Écolos, sont à 7% toutes les deux.
Et dans ce contexte, finalement, Paul, comment Emmanuel Macron peut-il limiter la casse ?
Alors, c'est toute la question et c'est l'enjeu aussi des prochaines semaines. Cette semaine, la campagne de Valérie Ayé tournait beaucoup autour de l'immigration avec le vote du pacte Asile et Immigration. C'était mercredi au Parlement européen. Il y a eu ce déplacement hier à l'aéroport de Roissy. Valérie Ayé était aujourd'hui à Marseille. la semaine prochaine et suivez mon regard, la thématique de la campagne IE, ce sera sur le réchauffement climatique. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que certains en appellent maintenant ouvertement, directement à Emmanuel Macron lui-même, lui qui a toujours misé le président sur ce socle d'électeurs pro-européens. L'entourage d'Emmanuel Macron parle en quelque sorte d'ADN. Vous vous souvenez que dès 2017, dans les meetings du candidat Macron, il y avait déjà des drapeaux européens. Emmanuel Macron, il prépare en ce moment un grand discours sur sa vision de l'Europe qu'on appellerait Sorbonne 2 pour réveiller, mobiliser en quelque sorte aussi ses troupes qui, à 44%, estiment ne pas avoir d'opinion de Valérie Ayer. Et puis, il y aura bien sûr ses discours lors des commémorations, par exemple, du débarquement. Et puis, la politique qui est menée actuellement par le gouvernement, la lutte contre les déficits, la tombée, si j'ose dire, du tabou des fonctionnaires, du licenciement des fonctionnaires, les annonces, c'était cette semaine sur le logement social, tout cela est évidemment destiné à remobiliser un électorat macroniste qui semble pour le moment aux abonnés absents.
Merci beaucoup Paul Barcelone du service politique de France Info pour cette analyse du premier sondage Ipsos pour France Info sur les européennes. Une première question avant de filer vers le fil info, je me tourne vers vous Brigitte Hadès. On est sur un sans faute selon vous pour Jordan Bardella depuis le début de cette campagne?
Écoutez, il est sur un sans faute, je ne sais pas, mais c'est un, il surfe sur les eurosceptiques. Il a une vision faussée et fausse, à mon avis, de ce que l'Europe est et ce que l'Union européenne représente. Il prétend, il faut le mettre devant ses contradictions, il a prétendu qu'il ne faut pas faire de Frexit, mais ils veulent que l'euro doit être maintenu. En même temps, il fait exactement le contraire, parce qu'il veut une espèce d'alliance des pays européens souverains, qui est sur sa volonté. C'est totalement absurde, parce que l'euro doit être basé sur quelque chose de très fort, une puissance européenne forte. Une monnaie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste avoir comme ça, en flottant. Donc tout ça est absolument absurde. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il est en train de préparer. Heureusement, de toute façon, il n'a pas de chance de devenir le parti majoritaire au Parlement.
Oui, on va y
parce
revenir,
que
justement.
Ça, c'est très important, ça peut rassurer. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi des votes de protestation. C'est toujours le cas. C'est pas raisonnable, c'est pas bien, parce que l'Europe est très importante, l'Union européenne. C'est pas un vote de protestation, on n'est pas là pour faire c'est pas les élections municipales. Et encore, même les élections municipales, ça ne devrait pas avoir lieu. Mais là, c'est vraiment très grave. Donc, on a ce problème-là, mais c'est, à mon avis, quelque chose qui ne se répétera probablement, peut-être pas d'ailleurs, j'espère, pour les élections présidentielles, il faut espérer.
20h-21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Les informés se poursuivent sur France Info après le fil info de Sophie Tussaud, toujours avec nos collègues journalistes de la presse étrangère, Brigitte Hadès pour le Royaume-Uni, Alberto Toscano pour l'Italie, la Roumanie représentée par Micaela Antoche et Vicens Battaglia pour l'Espagne. On continue d'analyser, de décrypter ce sondage Ipsos pour France Info, le Parisien, sur les intentions de vote pour les européennes. Sondage qui place donc Jordan Bardella en tête, loin devant la liste de Valérie Ayer, de Raphaël Glucksmann également, du PS, qui est en troisième position. Alberto Toscano, comment depuis l'Italie, on perçoit justement cette performance de Jordan Bardella?
Avec une certaine perplexité quand même, parce que c'est un succès théorique dans le sondage qui va au-delà de toute prévision. L'Italie a un parti d'extrême droite qui est au gouvernement, conduit par Giorgia Meloni, et que depuis qu'il est au gouvernement, il a changé certaines positions. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Exemple, le Parlement européen vient de voter des normes sur l'immigration. Sinon, les membres du Rassemblement national ont voté contre. Les membres du parti de Giorgia Meloni ont voté pour, avec les membres des députés européens macronistes.
Oui.
Donc, il y a eu quand même...
derrière
c'est la démonstration qu'on peut changer de position politique. En même temps, moi, derrière ce sondage que vous avez proposé, je vois quand même une faiblesse prévu et peut-être imprévisible du parti macroniste de Renaissance et de la coalition liée favorable au gouvernement. Et le 16%, c'est vraiment peu. C'est la moitié du niveau attribué par le sondage au Rassemblement national.
Et on est en plus dans la marge d'erreur hein, par rapport à l'écart avec voilà, Raphaël Glucksmann. Voilà. Donc peut-être sont-ils en vérité à égalité.
Voilà. Et il y a comme une faiblesse structurelle, je crois, à ce point-là, des macronistes. Et un député européen macroniste, il y a quelques mois, me disait « De toute façon, notre électorat est stable. Nous avons un socle stable de notre électorat. » Non, maintenant, ce socle de l'électorat macroniste s'est fragilisé. Et la position et l'impopularité du président de la République commencent à devenir sérieusement inquiétante, je crois, pour lui. Et c'est la raison, et je termine, pour laquelle, à mon avis, ces élections européennes, du point de vue français, sont vraiment une élection hyper importante pour la politique nationale.
Et Paul Barcelone nous disait en plus que des électeurs macronistes sont prêts à aller voter pour Raphaël Glucksmann avec conviction.
Et Paul Barcelone a raison, comme d'habitude.
Ça lui fera plaisir. Vicence Batalha, justement, on voit ce parti présidentiel pris en étau entre le RN, la liste socialiste. La campagne ne prend pas, ne fonctionne pas. Comment vous interprétez ça, vous?
Oui, depuis l'extérieur, depuis l'Espagne, on commence à découvrir Jordan Bardella, même s'il était déjà candidat il y a dans les élections antérieures européennes, mais on doit un peu relativiser parce que je me demande aussi combien de gens vont aller voter. La participation aux élections européennes est toujours même moins qu'en Espagne.
On était à 50% en 2019 en France, un électeur sur deux, on sera un peu moins selon les intentions de vote, selon ce sondage.
Est-ce que ça sera déjà représentatif pour 2027? Oui, ça, c'est une tendance, mais il y a toutes ces contradictions, que c'est allé à Toscane, pour l'histoire de Meloni, déjà qu'il vote de manière différente. Est-ce que finalement les Français vont voter seulement comme une histoire de protestation? C'est un vote proteste, mais c'est pas un vote qui va se stabiliser dans l'État. Et par contre, oui, parce que Macron va pas se représenter, il commence à avoir beaucoup de doutes avec les post-macronismes et là-bas, parce que la gauche est complètement, ou a été complètement atomisée en partie aussi à cause de Macron, même si la droite traditionnelle est encore pire, il commence à se dégager quelqu'un comme Raphaël Glucksmann. Ouais. Et oui, je crois qu'à des mois des élections européennes, c'est vrai, il y a un vrai problème pour la candidate ailleurs de Macron.
Et Raphaël Glucksmann qui aujourd'hui en meeting a en plus finalement fait un discours en faveur de l'écologie. Hein. Il arrive à rassembler à lui plusieurs tendances. Michaela Antoche, ça dit quoi selon vous ce sondage? C'est la suite finalement, du discours anti-élite, anti-technocrate, anti-immigration qu'on entend en Europe depuis plusieurs mois maintenant?
D'abord, je voudrais dire que ce sondage, c'est une belle photographie de qu'est-ce qui se passe maintenant en France et qu'est-ce qu'on voit dans le sondage. On peut revoir parmi beaucoup de pays, parmi les 27 pays de l'Union européenne. Ça veut dire cette droite extrême qui monte. Les socialistes qui ne trouvent pas le chemin, qui sont un peu pulvérisés dans les hémicycles de l'Union européenne, du Parlement européen, et les macronistes, les centres Renew, Renaissance, Horizon, etc., qui sont vraiment dans un chemin où ils se sont égarés un petit peu. Probablement, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron voudrait faire Sorbonne à deux, parce que je me souviens très bien quand il a fait le discours de Sorbonne en 2017, il a beaucoup parlé de sujets européens. Parmi ceux, il faut nous souvenir de budget européen, l'armée européenne, langue français parmi les autres pays, les échanges entre les étudiants de l'Union européenne où voilà la France a une place centrale. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe maintenant en France? Se passe dans beaucoup de pays, même chez nous en Roumanie, on voit cet extrême nationaliste, eurosceptique, anti-globaliste qui monte dans les sondages, mais tous les votes sont subjectifs. Émotionnel. Oui. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au 9 juin, tout peut changer. En même temps, cette différence entre Bardella et les autres, c'est assez grande et en train de grandir. Et probablement, il va garder la tête des sondages en plus.
Et l'avance qu'il a pu gagner. Et même si ce sondage nous apprend également que les deux tiers des personnes interrogées assurent que leur choix est définitif, a priori.
A priori. Mais tous les trois, les premiers trois, sont des bons connaisseurs de dossiers européens parce que tous les trois ont déjà une expérience à Bruxelles ou à Strasbourg. Ça veut dire qu'ils peuvent jongler facilement avec les sujets européens et ça se voit. Ça se voit dans les discours, ça se voit dans leurs déclarations.
20h, 21h, les informés, Benjamin Fontaine.
La suite des informés sur France Info, toujours avec nos collègues de la presse étrangère, Alberto Toscano, écrivain et journaliste italien, Michaela Antoche de la télévision roumaine, Vicence Battaglia pour l'Espagne et Brigitte Hadès pour le Royaume-Uni. On continue de parler de ce sondage des européennes qu'évoquait à l'instant Sophie Tussaud. Il y a un autre apprentissage de ce sondage, finalement, c'est la baisse de Marie Toussaint, la candidate écologiste, estimée à 7% d'intention de vote, comme Manon Aubry de la France Insoumise. Pourtant, on parle de plus en plus d'écologie. On a vu une jeunesse engagée dans différents pays européens. Brigitte Hadès, comment vous expliquez-vous là ce score finalement assez faible de la liste écologiste ?
Parce qu'enfin, les hommes politiques sérieux, entre guillemets, ont pris le sujet de l'écologie au sérieux et donc ils ont pris finalement les rênes de ce sujet fondamental.
Ça veut dire quoi, un politique sérieux ?
Parce que je pense que les écologistes, je pensais encore Cohn-Bendit qui avait dit quelque chose de très cruel, mais tout à fait vrai, que c'était comme des sectes. Finalement, Europe et l'écologie, les Verts, agissaient comme une secte. Une idéologie qu'ils plaquaient sur tout. Et donc, les gens n'ont pas confiance, ils ne peuvent pas donner le pouvoir à des gens qui sont idéologiquement très, 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 très fondamentalistes, presque.
Ça a changé quand même, même s'il y a encore
des actions. Ça a changé, mais enfin, quand même, je trouve qu'ils sont. Ils ont remplacé les marxistes de mon époque ou d'avant. Je suis désolée de le dire, mais je le pense sincèrement. Et donc, finalement, ils utilisent la peur du climat et des changements climatiques pour agir de façon totalement. C'est pas du tout démocratique. Et donc, moi, je trouve que c'est finalement une bonne nouvelle. Je suis désolée. Je fais partie d'un comité éditorial pour un journal d'écologie. Et j'ai écrit un bouquin sur le vivant. Et je suis la première à défendre le vivant et avant tout. Mais là, je vois que ça fonctionne pas. Donc, voilà pourquoi.
Donc, pour vous, l'explication, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'écologie, finalement, dans un petit peu tous les programmes.
Parce que c'est quelque chose de fondamental qui doit être pris à bras le corps par tous les hommes politiques au pouvoir.
Alberto Toscano, sur ce sujet.
Non, mais c'est vrai. Effectivement, l'écologie s'est imposée comme sujet fondamental pour toute la politique, dont le parti écologiste a été quelque part marginalisé dans ses positions un peu plus radicales. En même temps, il y a le phénomène de Glucksmann. Hein. La liste Glucksmann est en train d'enlever beaucoup de voix au réservoir écologiste. Et vous m'avez questionné tout à l'heure sur l'attitude de la presse italienne. La presse italienne regarde avec beaucoup d'intérêt le succès, quand même, la montée dans les sondages de la liste Glucksmann. Et si ça continue comme ça, peut-être que au présidentiel, les présidentielles sont très très loin, mais il n'est pas impossible.
Et pourquoi ça intéresse la presse italienne ?
Ben, ça intéresse parce qu'on voit quelque chose de nouveau dans la mouvance social-démocrate.
Ouais.
Et on vient d'une période de déclin de la social-démocratie, des partis socialistes. Oui, ils ont gagné en Espagne, mais dans des conditions un peu difficiles que tu connais beaucoup mieux de moi que moi, j'en parle pas. Mais il y a une difficulté aujourd'hui en Allemagne, même s'ils sont au gouvernement, mais les sondages pour l'Allemagne, pour la social-démocratie, sont très mauvais. Donc, aujourd'hui, les Italiens s'intéressent à ce phénomène de renouveau à gauche qui est représenté par la liste Glucksmann.
Et à gauche, en France, certains regrettent de ne pas avoir vu d'union, justement, pour ces élections.
Non, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, le parti Renaissance maintenant, mais avant de Macron, avait dit le tout en même temps. Et finalement, on voit que finalement, le parti social-démocrate se regroupe. Il y a une renaissance du Parti social-démocrate. Parce que finalement, ça a manqué. Ça a manqué dans le paysage politique. Et plus le président Macron a fait une politique plus ou moins de centre-droit, plus les gens ne se sont pas reconnus. Et donc, on crée. Et comme ils ont été dégoûtés par le parti LFI avec lequel ils avaient cette alliance désastreuse, ils sont maintenant de nouveau regroupés en quelque chose. Mais finalement, aux européennes, ce sera un parti qui sera allié avec les Renaissances pour agir.
Oui.
Donc, parce que moi, je pense que le centre-gauche-centre-droit va se regrouper. Donc ce sera une grande alliance, ce sera la grande alliance qu'on a déjà d'ailleurs. au Parlement.
Vicente Bataille.
Je crois que ça dépend aussi beaucoup des personnalités. Yannick Jadot était assez connu. Il s'est présenté aux élections présidentielles sans beaucoup de succès, mais il était assez connu. Même si tous ces candidats, ils sont déjà eurodéputés. Oui. En vrai, Raphaël Guzman, c'est quelqu'un qui est un très bon orateur. Mmh. Il n'est pas un militant du Parti socialiste français. En fait, il a son parti politique à lui. C'est quelqu'un indépendant. Et ça change par rapport à l'Espagne, par exemple, que c'est le parti politique qui doit négocier avec d'autres partis de gauche là-bas. C'est une personnalité qui est extérieure au Parti socialiste, qui s'est unie à eux et que dans un pays comme la France, que tout est toujours regardé en fonction de des élections présidentielles. Ouais. C'est une manière de déjà convertir un candidat européen pour les élections présidentielles. Une chose que ça n'a rien à voir, je crois, dans d'autres pays comme l'Italie ou comme l'Espagne. Et dans ces cas-là, les problèmes, je crois, des écologistes, c'est plutôt que la candidate n'est pas assez connue.
Ouais. J'aimerais qu'on parle un dernier mot pour évoquer ce sondage de la participation. On a commencé à l'évoquer avec vous. 43% des personnes interrogées ont l'intention d'aller voter. 43% seulement, j'ai envie de dire. En 2019, un électeur sur deux a voté, on l'a dit. On avait vu justement cette poussée des écologistes. Michaela Antoche, est-ce que selon vous, cette abstention, participation annoncée, assez faible, pourrait justement profiter à l'extrême droite? Comment vous voyez ça, vous?
Oui, bien évidemment, on peut s'attendre à ça, mais en plus, il y a cette confusion pour les électeurs. Ils font des confusions parmi les sujets et les élections. Les europarlementaires sont des sujets un peu... Ils considèrent qu'ils sont un peu éloignés. Mmh. C'est pour ça qu'ils combinent un petit peu les présidentielles avec les sujets locaux, avec des élections pour les mairies. Et pour les Européens aussi. Oui. Mais ils ne savent pas comment fonctionne le Parlement européen. Il y a encore, en 2024, il y a des confusions entre le Parlement, le Conseil... parmi les électeurs. Et cette confusion se voit même dans ce sondage. Parce que quand on regarde, il y a des sujets qui sont vraiment... Pas vraiment européen, si aussi. Évidemment, on parle d'immigration, on parle de politique agricole commune, d'écologie, etc. Mais pas des sujets vraiment européens. Et ça, c'est une confusion qui se voit dans les urnes.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cet avis. On va refermer là ce premier débat sur ce sondage des européennes. On aura largement le temps d'y revenir, et notamment demain matin à 9h40 dans les Informés de l'Europe avec François Baudrier et Jules De Guise. Bien sûr qu'on reste ici, on va continuer de débattre. On va parler moto dans quelques instants. On va revenir sur cette autre actu du week-end et cette colère des motards opposée à la mise en place d'un contrôle technique obligatoire. Il existe ailleurs en Europe, on y reviendra avec vous. On va ouvrir la discussion dans moins de 5 minutes dans les Informés sur France Info.
20h, 21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Et retour aux informés sur France Info avec, comme chaque samedi, les correspondants de la presse étrangère autour de nous. Et ce soir, nous avons la chance d'être entourés de Michaela Antoche, correspondante pour la télévision roumaine en France, Vicente Bataille, correspondant de la radio espagnole Cadena Ser et du journal catalan El Puntavui, Brigitte Hades, grand reporter, chef du bureau britannique de la revue politique internationale, et Alberto Toscano, journaliste, écrivain et éditorialiste italien. Je vous propose qu'on s'attarde maintenant sur cette mobilisation un peu partout en France aujourd'hui contre le contrôle technique imposé aux deux roues à partir de lundi. On a vu plusieurs centaines, voire milliers de motards défiler aujourd'hui à Paris, à Rennes, à Montpellier, à Grenoble ou encore Dijon. Ça fait 10 ans que la directive européenne existe et qu'elle peut être appliquée. Et après avoir reculé plusieurs fois, on va le dire, le gouvernement doit l'appliquer. Cette fois, les motos, les scooters, les quads ne vont pas y couper. Mais pour Jean-Marc Bellotti, qui est coordinateur de la Fédération française des motards en colère, ce contrôle technique n'a aucun intérêt car les motards, selon lui, prennent déjà grand soin de leurs engins.
Lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 17% d'accidents graves et mortels à cause du mauvais état du véhicule. En deux roues motorisées, c'est pas du tout la même chose. Le parc roulant de roues motorisées est très bien entretenu. Et selon les statistiques de la Mutuelle des motards, qui est quand même une mutuelle d'assurance moto spécialisée moto, eh bien c'est 0,3% des véhicules qui sont impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état. C'est-à-dire pratiquement rien.
Voilà, c'est les arguments qu'on a pu entendre aujourd'hui sur les manifestations. Alors, j'ai envie d'avoir votre œil, justement, sur cette mobilisation et sur ce contrôle. Alberto Toscano, on va commencer par vous, pays de la Vespa. Est-ce que, justement, les Français passent encore pour des râleurs?
Non, dans ce cas-là, les Français sont des râleurs, excusez-moi. Parce que quand il y a une loi sur votre chaîne, aujourd'hui, j'ai entendu un monsieur, on disait qu'il avait 82 ans, et qu'il disait « je m'en fous de ça ». Or, ça a c'est une loi, hein, ça a une portée juridique d'une loi. Si quelqu'un dit je m'en fous de la loi et je l'applique pas, eh ben excusez-moi, mais il y a un problème. Et là, on n'entre pas dans la discussion si c'est nécessaire ou pas nécessaire. Ça a été acté, ça a été décidé par des instances démocratiques, démocratiquement choisies quand même. Même si la Commission est le fruit quand même d'un vote du Parlement européen. Et ensuite, c'est appliqué par l'État, par le gouvernement français. Tout. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas dire « je ne l'applique pas ». Sinon, combien de personnes diront « je n'applique pas les lois sur le paiement des impôts » ou d'autres choses. Non, on est dans un État qui marche, alors on applique les lois, et point final.
C'est votre côté très légaliste, finalement.
Bah, légaliste, dites-moi quelle est l'alternative.
Ah, bien sûr,
c'est l'alternative, que chacun applique les règles qu'il veut. Ouais. Et bon, je doute que ce serait un État très fonctionnel et structuré.
Vicente Batalla, ça s'est fait également chez vous, en Espagne? Ça s'est fait sans accro?
Oui, je suis aussi assez surpris pour la réaction de motards français, parce que si j'allais chercher en Espagne... Il n'y a pas de débat sur ça. Et en plus, ce que j'ai trouvé, c'est que depuis la mi-temps des années 80, les motocyclettes sont contrôlées. Et depuis 2006, c'est les scooters qui sont, 2006, qui sont contrôlés, même avant la normative européenne. Une autre chose, c'est que c'est vrai que il y a moins de compliments au niveau de motos que par rapport aux voitures. Mais par exemple, j'ai vu une statistique, en France, c'est 707 morts l'année dernière. Oui. À cause des motos. En Espagne, c'est 286. Et même avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, les autorités espagnoles? Ils demandent un cours obligatoire pour avoir le permis V avec 3 ans d'ancienneté pour l'histoire des scooters.
Donc ils renforcent.
L'obligation du casque et l'obligation des gants. Ouais. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de protestes. J'ai pas vu de protestes en Espagne pour ces raisons-là. Et il y a moins de morts, mais on prend des mesures parce qu'on voit que ça a augmenté en Espagne, mais moins qu'en France.
Ouais. Donc, vous ne comprenez pas bien non plus cet esprit français. Michaela Antoche, comment ça se passe chez vous?
Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que vous vous imaginez si les chauffeurs de voitures disent je ne veux pas faire mon contrôle technique parce que il y a une loi, mais on ignore. Non, en Roumanie, oui, toutes les moteurs, motocyclettes, ATV, tous les véhicules de roues passent un contrôle technique chaque 2 ans. Les contrôleurs vérifient les systèmes de freinage, éclairage, phares, les contrôles des émissions, suspension, système de direction, tout. S'il y a un moteur sans contrôle technique, point d'amende, retirer le certificat d'immatriculation par la police et une amende assez consistante. Parce que les amendes en Roumanie, les points d'amende sont configurés par rapport au salaire minimum.
Ah oui.
Ça veut dire... C'est pas facile de tromper la loi.
Et je ne sais pas rapidement comment ça fonctionne alors.
Ça veut dire s'il y a, je ne sais pas, tu es au feu rouge et tu le passes.
Oui.
C'est, je dis un exemple bête probablement, 2 points sur ton permis.
Oui.
Ça veut dire 2 points. Multiplication par qu'est-ce qu'il représente ce point dans le salaire minimum, ça veut dire qu'il y a une somme assez consistante.
Ah oui.
Et pour ça, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. C'est la loi, c'est la loi. Ouais. Il a été déjà décalé. Et je peux dire encore une chose. On est en 2024 et la France est le pays le cœur de la démocratie. La France donne des leçons à tous les autres pays. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi? C'est un protest pour quoi? Pour une loi
Ça vous étonne tous.
Moi-même, j'aime regarder les motards, mais en respectant les lois.
20h, 21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Les informés se poursuivent sur France Info, toujours avec nos confrères consoeurs de la presse étrangère, Brigitte Hadès pour le Royaume-Uni, Alberto Toscano pour l'Italie, la Roumanie représentée par Micaela Antoche et Vicence Battaglia pour l'Espagne. Brigitte Hadès, vous vouliez prendre la parole, on évoquait ce sujet des motards en colère qui manifestent aujourd'hui en France.
Il y a plusieurs motards. Il y a les scooters qui sont en général pas vérifiés, mais les motards, les vrais motards, les gens qui ont des grosses motos, ils vérifient énormément. Ils se sentent un peu insultés qu'on leur demande des choses comme ça, étant donné qu'il y a 0,3% d'accidents dus à des problèmes techniques dans les motos. Pour les motos, par rapport aux voitures, qui sont 7% quand même. Donc on se demande s'il n'y a pas d'autres raisons, l'alcool, la drogue, les façons dont ils conduisent. Et, c'est ça les vraies choses qui pourraient correspondre à ce que dit Vincent pour les questions de sécurité. Donc, mais en même temps, c'est une directive européenne et il faut l'appliquer, on n'y échappera pas.
Mais c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de politique contestataire par rapport au vote,
exactement.
De ces intentions de vote. On y est un peu encore quelque part. On voit que là, c'est une mesure qui vient de l'Europe, donc une mesure qui est forcément mauvaise.
C'est exactement ça. Et surtout, il y a des sujets qui énervent énormément la population. Donc la sécurité routière, les 80 à l'heure au lieu de 90, tout ça énervément. Et c'est des questions, des sujets qui sont très facilement récupérables par les populistes anti-européens. Et là, on le voit tout à fait, c'est clair que c'est aussi lié à ça. Parce que franchement, ça ne devrait quand même pas être quelque chose qui prenne aussi autant d'importance.
Oui. Et Alberto Toscano, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est une loi, elle a été décidée, il faut l'appliquer. Le gouvernement a lui-même reculé parce qu'en 2021, il a dit on va attendre, ça embête les Français, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Vous comprenez ça, vous, un gouvernement qui finalement recule
Moi, je n'entrerai pas
provoquer une manifestation.
Je n'entrerai pas dans les aspects pratiques de cette décision européenne et donc française. Et donc peut-être que Brigitte a parfaitement raison dans ce qu'elle vient de dire. Et moi, j'ai fait une question de principe. Oui. Parce que si on commence à créer un précédent comme quoi une catégorie décide de ne pas appliquer les lois, qu'est-ce qui reste de la République? Donc, ensuite, votre question sur le fait que le gouvernement français a pris du temps, mais pourquoi pas? Et l'Europe prévoit, donne des marges pour l'application des directives. Donc, si le gouvernement français, dans ce cas spécifique, a utilisé ces marges, il a probablement bien fait. Mais un jour ou l'autre, il faut arriver à l'application concrète. Et je crois que ce jour-là est arrivé.
Il
est inutile d'être en colère. Cette idée comme quoi les catégories sont en colère, et chacun en colère, et en colère, et on vit dans une société de colère, ça amène à quoi?
En tout cas, effectivement, la mesure va s'appliquer à partir de lundi, puisque ce contrôle technique sera obligatoire. On va laisser la moto au garage, si vous le voulez bien, même si c'est vrai que c'est un week-end à aller faire de belles promenades sur les routes. C'est aussi un week-end à prendre un livre et à aller lire sous un arbre aujourd'hui, puisque ça tombe bien, en ce moment, nous avons le Festival du Livre à Paris, plus de 300 autrices, auteurs, plus de 100 000 visiteurs. Est-ce que vous avez ce genre d'événement avec une telle résonance dans votre pays, Micaela Antoche, par exemple?
Oui, on a beaucoup d'événements comme Salon du Livre de Paris, c'est Bookfest, c'est Gaudeamus. Il y a aussi des festivals de livres parmi les grandes villes de la Roumanie.
Ouais.
Et c'est une très bonne occasion d'acheter des livres avec des prix bas. Mmh. Et il y a des gens qui viennent avec des trolleys, des petites valises.
D'accord.
Pour s'acheter des livres parce que c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et l'année dernière, à Bucarest, à Bookfest, on a eu 400 événements pour l'édition de Bookfest. Milliers et milliers de visiteurs et des centaines des éditeurs, même si on dit qu'en Roumanie, on n'en lit pas beaucoup. Mais c'est un grand succès. Tous les événements qui concernent les livres, ça donne pour les Roumaines l'envie d'acheter, l'envie de voir en personne des auteurs, des traducteurs, des directeurs des éditeurs, des maisons des éditeurs, des éditions. Et c'est une très bonne occasion aussi pour avoir une dédicace.
Et oui, forcément, revenir avec un souvenir.
Ouais. Oui.
Vicence Battaglia, vous avez ça aussi?
Oui, nous avons une journée dédiée à ça, qui même on l'a exportée.
Le livre et la rose.
Exactement, la journée de Saint Jordi en Catalogne, Saint-Georges, ça vient de longue date, c'est le 23 avril, on sort avec, on va acheter un livre et une rose, et surtout les libraires, ils sortent dans la rue. C'est une espèce de fête de printemps. C'est pas férié, mais c'est plus qu'une journée fériée, parce que par exemple, si vous connaissez Barcelone, dans la Ramblas,
célèbre boulevard.
Oui, mais oui, exactement, mais partout, Passeig de Gràcia, mais partout, pas seulement à Barcelone, dans toutes les grandes villes, il y a les libraires, ils sortent dans la rue. C'est la journée des libraires et la journée des écrivains, parce que tout le monde essaie, ici, à la rentrée littéraire en septembre, tout le monde essaye de, quand même, les titres les plus importants, les publier quelques semaines avant. Et tous les écrivains, ce 23 avril, ils seront dans la rue en train de signer les livres. J'ai regardé, je crois que presque 10% de ventes des libraires, ça se passe le 23 avril. Oui. Et j'ajoute seulement que, après, par hasard, Cervantes, il est mort en 22 avril, et Shakespeare, il est mort en 23 avril. Et à partir de là, il y a plein de pays dans le monde, jusqu'au Japon, que même à Madrid aussi, qui ont copié cette festivité du livre. Oui, c'est une célébration pour la littérature et pour l'amour.
Bon, et on connaît également aussi la littérature italienne et britannique, on pourrait en parler des heures, mais Emmanuel Macron s'est lui aussi rendu au Salon du Livre hier, et depuis quelques heures, c'est vrai, une déclaration du président de la République fait réagir.
L'ensemble de ce monde du savoir, de la transmission du livre, cet écosystème, comme on dit, justement du livre, on doit le préserver aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que le livre d'occasion, surtout quand il est fléché par certaines plateformes, c'est une espèce de mauvais usage, en tout cas de contournement de ce prix unique. Donc on va essayer de mettre en place une contribution qui puisse permettre de protéger le prix unique et permettre à nos auteurs, à nos éditeurs, à nos traducteurs aussi, d'être mieux aidés.
Voilà, Emmanuel Macron qui envisage donc de taxer un peu plus les livres d'occasion pour ne pas mettre en danger les éditeurs. Je rappelle qu'en France, on a donc le prix unique depuis plus de 40 ans maintenant, mesure voulue par Jack Lang. Le prix est fixé par l'éditeur, il doit être suivi et le même partout dans les boutiques, mais on trouve parfois, c'est vrai, sur les plateformes de revente d'occasion des livres très récents à des petits prix, et c'est de ça dont parle le président sur ce prix unique. Justement, Brigitte Hadès, ça vous a inspiré une idée, je crois, cette proposition du président. Vous dites on devrait peut-être fonctionner autrement.
Oui, parce que je me dis, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas accès aussi à dépenser 22 euros pour un livre.
Bien sûr.
Et donc, le marché de l'occasion en Angleterre, et en Grande-Bretagne, il y a tout un York, il y a le York Festival juste pour ça, pour les livres d'occasion. Alors que le London Book Fair, c'est pour les livres neufs. Donc, on a ça. Mais moi, je pense qu'au lieu de vraiment taxer, parce que les gens seront tous obligés de payer plus cher et ça va peut-être détourner les gens de la lecture, on devrait attendre peut-être 6 mois, voire 1 an, avant de permettre aux gens d'accéder à un livre qui était neuf. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus sage de laisser les gens acheter le livre neuf pendant 1 an ou 6 mois, et d'après l'ouvrir en occasion.
Je trouve ça un peu comme on le fait pour les films, finalement.
Comme les films. Je trouve ça beaucoup plus sage que d'augmenter le prix des... Je pense que le président aurait intérêt à faire plutôt ça. Mais enfin, oui.
20h-21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Dernière partie des informés sur France Info, toujours avec nos collègues journalistes de la presse étrangère, Brigitte Hadès pour le Royaume-Uni, Vicens Bataia pour l'Espagne, Michaela Antoche de la télévision roumaine et Alberto Toscano, écrivain et journaliste italien. Alberto, écrivain, on parlait livre il y a quelques instants, on parlait prix unique en France. Ça existe également, je crois, chez vous, le prix unique ?
Oui, ça existe.
Ça fonctionne bien, justement ?
Sauf il n'y a pas de protestation.
Ouais. Et cette mesure du président, vous l'interprétez comment, vous ?
Sur le plan de la boutade, j'ai envie de dire qu'évidemment, l'Élysée pense à de nouveaux impôts, et l'idée de nouveaux impôts tourne dans la tête, et au-delà de la boutade, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Parce que le livre n'est pas qu'un phénomène économique. On peut gagner moins, d'ailleurs moi, par mes livres, je gagne presque rien, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que quelqu'un le lise. Ouais. Quand on écrit un livre, on a envie de... On ne fait pas comme de l'artisanat pour créer un objet et le vendre. On pense transmettre des sensations, des sentiments, des opinions, des idées. Et peut-être que sur le terrain purement économique, la proposition est parfaitement juste, mais le livre va au-delà du pur terrain de l'économie, à mon avis.
Justement, vous parliez de taxes. Éric Coquerel de la France Insoumise, député de France Insoumise, qui était avec nous ce matin sur France Info dans le 8-30, disait « Emmanuel Macron ne veut pas augmenter les impôts, mais il arrive à trouver de nouvelles taxes ». C'est un petit peu ce que vous nous dites en filigrane, Alberto Toscano, Bicens Battaglia. On commençait à l'évoquer, est-ce que ça ne risque pas d'être contre-productif pour les lecteurs? On a eu une étude cette semaine du Centre National du Livre qui nous dit que les jeunes lisent de moins en moins.
En fait, on parlait tout à l'heure de motards, on ne comprenait pas la colère, mais par contre, on copie de bonnes choses de la France, comme le prix unique. Hein. Oui, ça c'est une très bonne chose. Et oui, avec les plateformes, avec les gens qui achètent des livres déjà sans aller dans les librairies. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse de quelle est la meilleure solution, si c'est taxer ou pas taxer, si obliger à qu'ils passent quelques mois avant de pouvoir revendre les livres. Mais moi, c'est un sujet, parler avec les plateformes, parce que finalement, ce n'est pas seulement l'histoire d'accéder aux livres, c'est aussi à partir de qui on peut accéder aux livres. Je crois qu'on doit aussi préserver les librairies.
Oui.
Parce que c'est un écosystème, comme d'autres écosystèmes culturels, que c'est important à conserver. Sinon, on va perdre la diversité des livres. On va vendre les mêmes livres dans les plateformes, je crois.
Michaël Antoche.
Vous avez dit que les jeunes ne lisent pas trop.
Ils se détournent un petit peu du livre.
Ils se détournent, ouais. Mais ça se voit parce que l'avancée de réseaux sociaux, de tout ce qu'il y a sur Internet, sur les portables, sur les iPads, iBooks, tout, ça se voit dans les librairies, dans les bibliothèques, dans le Festival du Livre de Paris. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de... Il y a un petit problème en quoi qui concerne les libraires, les maisons des éditions et leurs activités pour le futur. Mais en même temps, c'est d'avoir un livre et de se régaler en lisant un très bon roman, fiction ou non-fiction, poésie ou un essai. Ça donne un sentiment quand même, on est en France, je dis encore une fois, le pays de la démocratie, de la culture, c'est un sentiment d'être humain. Quand on a eu la pandémie, on a fait 2020. France culture un programme spécial, une chaîne spéciale pour avoir l'accès à la culture.
Il y avait des chaînes de télévision.
Exactement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si je peux dire juste...
Ça vit encore hein, sur le service public quand même.
Mais oui,
je dois le dire.
Pour le Festival du Livre qui est vraiment un régal. C'est un festival, c'est une fête pour pas seulement pour Paris, pour tout le monde qui est là, même la Roumanie. Oser explorer, ça veut dire un slogan qui est très fort, oser explorer, imaginer un voyage dans la littérature roumaine avec 32 maisons de l'édition, 15 auteurs qui sont ici à Paris et à peu près 40 titres proposés par la Roumanie cette année et des écrivains absolument magnifiques comme Émile Cioran. Il y a des volumes sur Nadia Comăneci que vous connaissez très bien. Même sur Nicolae Ceaușescu, bon, le dictateur.
Il y a
quelques
jours,
vous avez profité pour faire un petit peu de
tour
à Roumanie,
jours,
c'est parfait.
Il y a eu à Paris le festival Italissimo qui a présenté la littérature italienne contemporaine. Donc il y a vraiment une vitalité des autres littératures européennes aujourd'hui de se présenter à Paris.
Oui, qu'on veut découvrir. Oui. Brigitte Allez, vous
voulez dire quelque chose ? Je trouve qu'on oppose les écrans et la lecture, mais les jeunes lisent quand même beaucoup. En ligne.
Tout à fait.
Alors donc, il faut quand même reconnaître qu'ils ont pris une autre tangente, mais ils lisent beaucoup. Et autre part, là, très important, en Grande-Bretagne, les livres ont décollé depuis 2-3 ans. Mm-hmm. Ils vendent beaucoup plus de livres qu'avant. Et en France, bon, ça dépend du 4%, ce qui n'est quand même pas dramatique. Je pense que ça se maintient pas mal. Et le vrai livre se maintient parce que les jeunes maintenant, la nouvelle mode, c'est de se désintoxiquer de l'écran. C'est la nouvelle mode, ça se passe beaucoup aux États-Unis, mais ça va nous venir, comme toujours, un peu plus tard. Mais ça commence déjà beaucoup aux États-Unis, ma fille m'en a parlé aujourd'hui même. Ils se désintoxiquent de l'écran, donc ils prennent des vrais livres.
Et par ailleurs, les réseaux sociaux sont prescripteurs aussi de livres via TikTok. Il y a beaucoup de tendances qui permettent aussi de découvrir des livres. Je vous propose qu'on tourne cette page des informés, chers invités, ce soir. Merci Michaela Antoche, merci à vous Vicens Battaglia, Alberto Toscano, merci également à vous Brigitte Hadès. On parlait de livres, je profite de, cette, de votre présence pour rappeler l'existence de votre livre Les Voix de la Forêt, aux éditions Porte-à-Parole, justement pour rappeler. Alberto Toscano, vous avez un livre également à nous proposer ?
Ça sort dans un mois.
On aura l'occasion d'en reparler lors de votre prochaine venue. Alors,
si vous m'invitez encore.
On vous laisse mettre une dernière correction. On vous lit en tout cas, on vous écoute tous les quatre et on vous retrouve également en podcast et en vidéo sur le site franceinfo.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée. L'info continue sur France Info.